Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 24 novembre 2007 et il est très exactement midi et 40 secondes.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, manga, ciné, DVD, TV et nouvelles mangas.
Suivi de
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires à l'infirmerie.
Et ensuite,
à 15h Jazz Not Dead, 17h Big Bang, 18h Made in France, 19h Happier, 20h La Stéréo Experience, 21h30 9 Love et à 23h enfin une émission en français, Le Potager. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Oui, avec un nom en français, pardon, je voulais dire. Parce que Supplement Weekend, puis Ça c'est du sport, et puis Big Bang, Jazz Not Dead. Hein? Non? Bon, ok. Ça va, j'ai compris. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Ah ben, je viens de lire là Jazz Not Dead. Au départ, je me suis dit, putain, chic, il y a une émission de jazz après.
Non, les non, loupés, c'est pas ça. C'est du reggae.
Non, 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 mais bon, c'est pas. J'ai l'habitude.
Oui, ça, c'est. Vous êtes sur FMR 89 points. Aujourd'hui, le supplément week-end va faire chauffer un petit peu les manettes parce que l'équipe va aller à Balma, pas très loin d'ici, pour le TGS, le Toulouse Game Show. Et ma foi, ça pète un peu.
Ouais.
Donc aujourd'hui, c'est une spéciale un petit peu manga.
Ah oui, on peut dire, oui.
On peut dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je sais pas, bon, du Joy Division. Comme ça. Non, c'est même pas du Joy Division. C'est du New Order. Même pas. C'est remixé. Bizarre Love Triangle, spécial dédicace dédié, pardon, à Aurélie Horita et Frédéric Boilet, remixé par Crystal Method, CSII Remix.
Every time I think of you, I feel shot right through with a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows.
Thank you. je sais, ça pète un peu, mais bon. Thomas tout à l'heure va parler d'un film sur l'un des groupes qui a vraiment 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 fait exploser la musique rock, la musique pop et surtout tous les mouvements électroniques en Angleterre. Ça, ce sera tout à l'heure avec Control, donc il sera question de Joy Division et de New Order bien évidemment, et plein d'autres choses. Thomas, tu es avec nous, tu es avec le Comic Box que vient de te filer du sport et qui, dont il va parler dans la revue de presse.
J'étais avec le Comic Box.
Merci, ça fait plaisir d'être suivi. C'est une horreur. Tout à l'heure, à l'exception de du sport qui sera fidèle au poste jusqu'à 15h, bien évidemment. Oui, s'il vous plaît. Il y aura une spéciale. L'émission déjà est une spéciale Toulouse Game Show pour le week-end. En tout cas, ça y ressemble un peu. Ce qui n'a rien à voir avec la métamorphose du building de Radio FMR, puisque les locaux de la radio accueillent désormais Booster FM sur 106.8. Nous, on est sur 89.1, ils sont à 106.8. Les deux extrêmes sous le même toit. Ça va péter. Je parle des deux extrêmes du tuner, bien évidemment. Rien à voir. Bon, je vous préviens à l'avance. Il y aura du Maurice Béjart dans la programmation musicale. Si, si, j'insiste, il est là.
Il est là.
Il est mort. Et il est... je parle pas forcément, puisque quand même, si on fait de la radio, c'est plutôt la bande-son de Messe pour le temps présent de Pierre-Henri et Michel Colombier. On va le passer tout à l'heure, ce sera la surprise.
Ah, c'est plus une surprise.
Voilà. Voilà. Sachez que tout à l'heure, nous serons devant les stands de Chiaopan, donc à Balma pour le Toulouse
Game
Show.
Oui, mais pas que.
Pour attendre une dédicace des auteurs de New Mao, donc le studio chinois sera à Toulouse tout à l'heure. Nous ferons la queue en miaulant, puisque avec nos copines, on adore miauler. Miaou.
Alors attends, miaou, donc Sabrina, si tu nous écoutes, pense à amener ton numéro de New Mao, s'il te plaît.
Voilà. Et donc nous ferons la queue en miaulant pour attendre une dédicace de chat, et ce ne sera pas à confondre avec Bernard Minet qui sera en concert tout à l'heure.
Oui, donc tu m'as spoilé mon programme.
Oui, vas-y.
Donc le Toulouse Game Show, on est en train de vous en parler, donc ce sera à La Beige, donc c'est en ce moment samedi et demain, à Diagora, à La Beige, donc il y aura beaucoup d'éditeurs qui seront présents, donc Kazé, voilà, Biz, Microsoft, Anima, D-Bex, Sega, Nintendo, Chiaopan. Donc il y a aussi les éditeurs de manga et de BD, Dokebi, Safira, Kiko, Kabuko, Kiun, Kana, Konami, l'éditeur de Pro Evolution Soccer.
Ça fait beaucoup de cas.
Soleil, Black Bones, il y aura également un espace projection avec les projections des OAV 1, 2 et 3 de Ghost in the Shell. Rosen Maiden, Rave, la sorcière de l'Ouest, Nana, Cutione, les 4 OAV de Kenshin plus le film, donc il y a à boire et à manger. Méga cosplay, donc cosplay en solo.
Appareils photo.
Oui, ce sera cet après-midi à 17h pour le cosplay solo et demain à 15h pour les cosplays en groupe. Ne manquez pas ça, c'est toujours assez impressionnant. Au niveau des activités, donc il y aura un tournoi Pro Evolution Soccer. Qui sera organisé par Konami. Oui, bon, j'ai pas le niveau. Moi, je suis à mi-chemin. Moi,
il y aura aussi. T'es quoi niveau sélectionneur de l'équipe de France?
Non, je suis niveau 3 sur 6.
Ah, d'accord, celui du PSG, d'accord.
Ouais. Roger Le Maire. sinon, il y a aussi le tournoi de jeux vidéo. Il y a beaucoup de bastons aussi. Street Fighter 2, Tekken 5, il y a de quoi se griller les pouces. Du karaoké, donc aujourd'hui de 15h à 16h et demain de midi à 13h.
Pas moi, non. Je serais mort de rire, non.
Donc il y aura du karaoké, je sais qu'il y a des fans. Un tournoi de sumo, vous endossez un costume de sumo
avec
en mousse,
gonflables,
voilà,
ouais.
Un truc gonflable, ça promet d'être assez rigolo. Des jeux de cartes.
Comme à la télé.
Voilà, le tournoi. Un tournoi de cartes avec les cartes Yu-Gi-Oh! Tournoi Guitar Hero, c'est le fameux jeu où vous branchez une guitare sur la prise de manette.
Enfin, ça tient un peu du air guitare parce que la guitare, il y a quoi? Il y a 4 touches d'accord.
Ça correspond aux touches de la manette, effectivement. Voilà. Donc, c'est celui qui fera effectivement le moins de notes fausses. Ensuite, il y aura un pôle science-fiction avec l'association Les Toulousains Contre-Attaque qui présenteront des costumes et décors avec en exclusivité. Reproduction grandeur nature. De la porte des étoiles.
Oh là, oh là.
Oh.
Oui, on pourra faire des effets spéciaux après.
je rappelle que Thomas a un master quand même d'effets spéciaux numériques et digitaux.
Et comme disait Jack O'Neill dans l'épisode 200 qui est passé vendredi dernier, oui, il me manque ce bon vieux orifice. dans ce pôle science-fiction, il y aura aussi un stand
c'est
projection.
C'est culture de l'inutile, là.
Voilà, un stand projection. Et il y aura également Francis Chal et Fabrice Labrousse, les auteurs de Il était une fois la guerre des étoiles, la galaxie George Lucas, qui seront en dédicace sur ce pôle science-fiction. Il y aura également beaucoup d'autres trucs, un concours Dance Revolution, donc c'est les fameux plateaux où vous pouvez danser en rythme sur une chorégraphie sur des plateaux lumineux.
C'est un gros plateau métallique, c'est truc
avec
d'arcade.
Avec les pads, hein. Là.
Voilà, exactement.
Oui, d'accord.
Démonstration
d'armes. Je vais changer de chaussures, promis, j'aurai.
Une démonstration d'arts martiaux, un espace fanzine, un atelier calligraphie, les stands de Nintendo DS, Wii, Xbox 360 et PS3, un stand d'origami, du rétro gaming, un atelier cuisine japonaise. Ça
alors rétro gaming, il faut expliquer, c'est les jeux des consoles Pac-Man, des années 80, voilà. 90. Donc
les bandes d'arcade, voilà.
Les bons vieux ping-pong et tout
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Oui. Du démonstration de Tachichuan, un quiz, question pour un otaku. Attention,
alors attention, c'est, attention parce que autant si on leur dit citez-nous les 15 Pokémon avec leur transformation, ils sont incollables. Mais...
Ou les 43 personnages principaux de Naruto, ça
bah
n'y a
alors,
pas de problème.
Là où on s'éclate avec Thomas, c'est citez-nous 10 noms d'aventures de Tintin.
Oui, ou citez-nous une série de bandes dessinées franco-belges. Voilà.
Alors, ouais, déjà ça les éclate.
Et il y aura également pour les geeks un concours de pillage de t-shirt, une démonstration de jeux de Go. Il y aura un blind test géant organisé par coucoucircus.org sur une scène. Il y aura, ce sera un blind test sur les génériques de dessins animés. C'est aujourd'hui et demain de 14h à 15h. Et en exclusivité cosmique, l'événement de Toulouse Game Show, le concert de Bernard Minet ce soir.
Et à quelle heure?
Je pense à partir de 20h, je pense.
D'accord.
Voilà. Donc on voit les affiches Bernard Minet en tenue de Bioman Force Rouge.
Bien sûr.
Voilà, donc
le pauvre,
il a eu
du mal à ne pas prendre du ventre.
Il y aura beaucoup de réjouissances. C'est pour ça qu'on y sera. Moi j'y serai 2 jours.
Voilà, c'est vraiment de la pure culture geek, otaku, renfermée, enfin limite nerds. Et tu dis qu'il y a Kazé? Oh, oui. Il y aura peut-être les DVD de merde.
Et il y a aussi Biz, l'éditeur de Ghost in the Shell également.
Oui, oui.
Et j'ai parlé aussi des stands à côté qui sera des fanzines, mais il y aura évidemment des stands pour acheter des goodies et des figurines. Oh, non, 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 non.
Voilà. Merde, la carte bleue.
Tu soulignes un détail assez important. Il y a très peu de stands qui sont équipés de lecteurs de cartes, donc il faut prendre du liquide avant. Hein. Voilà.
Sachez que pendant ce temps-là, la librairie Album, rue Parmaguinière, de 15h30, Pergaminière, de 15h30 à 19h, Cédric Asna, BD blogueur de talent, dédicace son premier album, Les Contes à dormir debout.
Ced.
Voilà, Ced. Son site, c'est Ced Universe, C-E-D Universe en anglais, donc avec le final, .blogspot.com, on mettra le lien sur le site web du supplément week-end. Et donc, ça vient de sortir chez Macaca Edition. C'est sympa, c'est rigolo. Thomas, lui, il a plus lu que moi.
Ah non, moi j'ai pas lu la BD, j'ai un peu plus. J'ai lu son blog surtout, hein,
bon,
qui est assez sympa. Et donc, c'est l'éditeur Macaca, c'est une nouvelle maison d'édition, hein, dont il est l'unique auteur pour l'instant, c'est un truc qui se lance. Et comme c'est un Toulousain qu'on connaît bien, donc il disait sur son blog, ça lui faisait tout bizarre d'aller dédicacer comme un grand dans la librairie où il avait l'habitude d'acheter toutes ses BD.
Ouais, nous on aurait aimé faire le coup de venir. Mine de rien, de faire la dédicace et après dire donc j'ai lu votre album et tout ça. Non, mais on peut se tutoyer, non, mais on se connaît, non, mais on peut faire une interview s'il vous plaît.
Par contre, il sera jusqu'à 20h, donc vous pouvez aller au Toulouse Game Show et ensuite aller voir Ced à l'album.
On va essayer, ça va foncer. Mais malheureusement, nous, après, on est à Blagnac.
Ah,
ça merde. Va être un petit peu chaud, hélas pour nous. Et oui, il va falloir se faire un choix. Moi, j'ai pu me libérer que ce samedi. Donc ça va être un peu chaud. Si vous disiez, en sortant dehors, fait gris, fait froid, fait un petit peu humide, il pleut et tout, pas envie de faire grand-chose et tout, loupé. C'est bientôt Noël. Alors profitez-en, vous aurez peut-être des cadeaux à faire pour les petits cousins et tout ça. Voilà. Non ?
Si, tout à fait, oui.
Pourquoi le son est coupé ? Ah d'accord, j'ai appuyé sur prod.
Oh là là !
On va entamer les sorties bande dessinée, les midi et 15 minutes déjà. Oula ! commencer Willem, le roman noir des élections. C'est un bouquin, un recueil d'illustrations qui vient de sortir dans la collection Carrément chez les Requins Marteaux. Un bouquin Carrément, c'est un tout petit bouquin hein, qui font 12 cm de côté. Et d'ailleurs, c'est la deuxième collection Carrément des Requins Marteaux. Les élections présidentielles du printemps dernier n'ont jamais été aussi intenses, puisqu'il s'agit d'un recueil de dessins de presse, en fait, hein, j'ai oublié de préciser. Donc des élections qui ont été très intéressantes quand même, qu'on a vues cette année, et pour cause, c'était la fin du double mandat de la génération Chirac. Le Premier ministre ne s'est finalement pas présenté à sa place, le renouvellement des cadres dans tous les partis, le retour d'une gauche combative et justitante après la déculottée de 2002, bobo le cul, l'ombre du borgne de la droite que la droite semblait combattre, et surtout, tous les coups bas furent permis au sein même des partis politiques, même une fois la tête de liste choisie. Bref, il y a eu du sport. Il y avait de l'enjeu, c'était autre chose que la Ligue 1, et on en avait déjà parlé pour l'excellente face cachée de Sarkozy, donc Malka, Rice et j'ai oublié le troisième là.
Cohen.
Ouais,
Philippe Cohen.
C'est un autre dessinateur de presse qui officie comme Rhys dans Libération et dans Charlie Hebdo qui sort ici le recueil de ses culs de lampe. Vous savez, les dessins que l'on met de tous côtés.
Ouais, lui c'est un vieux de la vieille. Hein. Lui, c'est
oui, il a 67 ans.
C'est de l'époque Charlie des années 60, Harakiri, puis Charlie vieille époque.
Oui, tout à fait. Il a commencé d'ailleurs en mai 68. Des dessins de presse qui racontent une histoire, l'actualité, un événement factuel dans un cadre unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs cadres en général. Non, il y a juste un dessin, un édito en crobar vif, sans pitié, parfois dadaesque. Dadaesque comme la politique française. Vous savez, la politique française, c'est un peu comme les ronds-points à l'entrée des villages. Vous voulez aller à gauche, ben vous tournez à droite, vous tournez, et puis vous sortez en retournant à droite. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bref, un roman noir... C'est une très bonne image finalement de cette année 2007. C'est aussi un bon hommage pour un genre littéraire flingueur. Le romancier en profite en général dans ses livres pour y dénoncer une certaine injustice sociale. Willem, le roman noir des élections, c'est dans la collection Carrément, chez les Requins Marteaux. Benoît Moré, manga, l'histoire d'un empire japonais. Donc c'est un ouvrage, c'est pas franchement une bande dessinée, sorti chez Timé Édition. Peut-être un guide en plus sur la manga, un secteur, je parle des guides, hein, sur les mangas en plus, hein, qui est déjà très très bien occupé par des ouvrages didactiques, comme 60 ans de manga de par Paul Gravitt, ou analytiques, comme l'art du manga de Thierry Grosston, et d'autres. Sauf que celui-ci a une particularité qui est vraiment, à mon sens, est vraiment remarquable. Il a été écrit par Benoît Moré, la personne qui est derrière les éditions IMHO, un drôle de petit éditeur manga qui a publié en France les œuvres de Junko Mizuno, la version childish trash de Cinderella, vous savez, c'était des dessins enfantins avec des dégradations gothiques, gore, et des couleurs vraiment passées, assez étonnantes, et de Atsushi Kaneko, l'auteur de Bambi, la version tueur en nez avec une adolescente irresponsable matinée de J-pop. Bref, rien à voir avec le mainstream adolescent ou le mouvement nouvel manga. Et pourtant, il dresse un bon panorama de l'histoire de la bande dessinée sur l'archipel japonais. Des débuts de l'édition des mangas tels que nous les connaissons, la segmentation qui fait que chaque série qui sort est prévue vraiment pour un public particulier, les différents auteurs classiques et actuels, et ceci sans hésiter à parler des séries publiées chez ses concurrents. C'est présenté par chapitre, de manière assez synthétique, une double page par sujet, ce qui donne un livre qui peut se lire d'une traite ou peut se consulter au coup par coup, c'est-à-dire on ouvre une page au hasard, on lit la double page et puis on referme. Bref, c'est un ouvrage qui peut se consulter dans l'instant, pour le fun, dans un temps mort. Même s'il y a des manques, parce que trop évident peut-être pour l'auteur, comme la forte relation graphique de l'écriture en kanji avec le dessin, ou encore la très forte influence sur la société, l'influence de l'industrie de l'animation et des produits dérivés, l'histoire de leur exportation. On a quand même une bio intéressante à la fin des principaux acteurs français, comme Dominique Véret, ou encore comment Glénat s'est lancé. C'est un bon guide quand même d'initiation à offrir à son entourage ou à un nouveau jeune fan. Plus précis, moins basé sur les anecdotes que le comics dans la peau des super-héros, qui était sorti chez le même éditeur l'an dernier par Philippe Gage. Manga, l'histoire d'un empire japonais n'est pas complètement exhaustif, mais c'est une très très bonne introduction en fait pour bien comprendre les clés de ce mouvement qui emporte littéralement, je veux dire, la jeunesse actuelle française au péril de ses chinoiseries et autres japonaiseries. Benoît Moréis, le manga histoire d'un empire japonais, c'est chez Timé Éditions.
Et c'est assez complémentaire du bouquin que tu as cité tout à l'heure de Paul Gravitte, parce que dans le Paul Gravitte, c'était...
C'est dense et c'est assez universitaire.
C'était très 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 dense. Ouais, et dans une phrase, tu étais obligé de le lire plusieurs fois parce qu'il y avait beaucoup d'infos. Et là, en feuilletant un petit peu, c'est quand même plus basé sur côté accessible et pas anecdotique, mais qui fait un peu plaisir quand tu connais les séries. Alors que là, c'était vraiment pris sur des dizaines d'années. Oui, alors ça, s'il a fait ça, c'est parce qu'il était influencé par machin, tout ça. Et après, c'était super intéressant, mais celui-là, c'est vrai qu'il se lit apparemment beaucoup plus vite.
Chimico, le deuxième tome vient d'arriver de la série improbable de Daijiro Morooshi. Ça s'appelle Le Poisson Noctambule. Ça vient de sortir donc aux éditions Doki Doki. Shiori et Chimico sont deux inséparables copines de lycée, toujours ensemble à la sortie. Elles ont un quotidien tout à fait ordinaire. Ou presque, puisqu'à tout moment, leur environnement peut basculer dans le fantastique à la Edgar Allan Poe, l'horreur à la Howard P. Lovecraft, ou l'absurde à la René Magritte. Un immense poisson déguisé en bouquin pour dévorer les hommes, un visage farceur qui prend la place des autres, ou des livres ouvrant sur d'autres pays. Leur quotidien leur joue continuellement des tours, et si elles ne prenaient pas garde, elles pourraient bêtement mourir. À elles de trouver un semblant de normalité dans leur quotidien farfelu. D'abord, il y a le graphisme, étonnamment peu assuré. Ensuite, il y a la banalité de l'horreur dans le quotidien des deux adolescentes. Ça fait un peu penser à Spirale, ou peut-être à... Mince, j'ai oublié le nom du bouquin, de la fameuse VHS.
Ring.
Ring, voilà. Mais surtout, l'humour, assez mordant, grinçant. Bref, on a un bouquin surprenant, parce qu'il prend au dépourvu le lecteur occidental. Il joue aussi sur les mots, les conventions, les cultures. Et les livres, les romans, les bouquins en tout genre sont des personnages importants de chaque histoire. Le mélange horreur, humour, poésie peut sembler extrêmement bizarre, mais il se trouve qu'il est populaire au Japon. La très grosse surprise de ce deuxième tome, c'est la postface, qui est signée Jean-Pierre Denet, le rédacteur en chef de Metal Hurlant, celui qui a créé le cinéma de quartier sur Canal+, celui qui importe aussi des films coréens, et sud-coréens, pardon, j'ai oublié de préciser, un très grand connaisseur des cultures borderline, qui est en train de faire disperser son immense collection de films, de BD, de romans, et donc il nous donne un petit peu quelques clés, justement, sur pourquoi la popularité du genre horreur-humour au Japon. Shiori et Chimico, le deuxième tome s'appelle Le Poisson Noctambule, c'est de Daijiro Morooshi, et donc ça vient de sortir chez Doki Doki Édition. Ouais, tu rigoles là sur une manière de massacrer les mots.
Pour le procès verbal.
D'accord. Tout à fait autre chose après un manga, ça.
Après la mangas.
Ben la mangas française.
Dofus Monster, tome 1, le Shenmue par Kunchan, et c'est édité chez Ankama Édition. Alors, dans la forêt d'Amakna, vous aurez vu Ankama, Amakna, la jeune feuille, c'est une jeune fille qui s'appelle Feuille, manque de se noyer dans son sommeil, mais est sauvée par le Shenmue. Celui-ci, avant de la sauver, s'est déraciné. Pour cette raison, banni par ses congénères et dans l'impossibilité de se replanter, il va partir habiter dans une grotte. Dans le village voisin, chez les Sadidas, Feuille a grandi et elle ignore qu'elle doit la vie aux chênes et part chercher un arbre à protéger parce que dans la tradition, dans le village, ils doivent seconder un dieu qui est leur dieu qui est très 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 occupé, donc c'est à eux de prendre soin des arbres. Elle se lie d'amitié donc avec ce fameux chêne, mais leur entente va être mise à rude épreuve au moment des premiers flirts de la jeune fille. Un arbre en colère, c'est jamais bon signe, surtout quand il est jaloux, et surtout aussi quand il hérite d'un rubis un peu maudit qui exacerbe les sentiments aussi bons que mauvais. Alors, Kunchan, c'était l'un des dessinateurs du manga Dofus tout court. Alors, Dofus, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo en ligne, en fait, édité par Ankama. Voilà, le premier jeu en ligne derrière World of Warcraft en France.
C'est le premier jeu en ligne. Joueurs. Hein.
Oui, édité par des Français. Donc, c'est la collection Dofus Monster. Ça prend à chaque fois, ce sont des tomes indépendants qui ont pour héros donc un des monstres du jeu avec un auteur différent chaque fois, et donc là ils commencent par le Shenmue. Il faut savoir qu'ils ont aussi lancé un concours en partenariat avec Animeland sur Dofus Monster, donc pour faire un appel à des BD par des fans hein, qui voulaient éditer leur BD. Donc le résultat du concours n'a pas encore été publié, il me semble. Donc là c'est Kunchan donc qui s'y met, et le Shenmue, alors ça suit un peu comme les débuts d'Anakin pour savoir comment il est devenu Dark Vador. Mais là c'est pareil, on a un arbre qui est tout gentil au début, qui se déracine exprès par sa seule force de sa volonté pour sauver la petite fille, et comment il a pu devenir monstre du jeu.
Il est si méchant parce que
et alors le trait, déjà l'histoire, elle est, moi je la trouve super bien, parce que justement c'est la cohabitation entre une première partie qui est toute mignonne où on suit la jeune fille qui grandit et l'arbre qui est très protecteur et tout, et une deuxième partie franchement qui va vraiment pas dans le gore, mais vraiment dans le très 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 dark, comme dans les meilleurs moments des contes des frères Grimm. Franchement là, bon, c'est à peine évoqué parce que dans des phrases tu sais quels sont les destins de certains personnages que tu vois plus après. Tu les vois pas vraiment, tu vois pas de gore ni rien, mais il y a un climat quand même qui s'installe qui est assez dark, et le trait moi je trouve vachement bien, parce que autant il peut alterner un trait très précis pour avoir beaucoup des décors ou des personnages en tout petit, donc ça permet ça nécessite pas mal d'adresse, et autant certains passages où par exemple des séquences de rêve et tout, et on voit que c'est fait au crayon, on conserve le grain du crayon, des traits assez grossiers proches des roughs en fait, et c'est les deux styles de dessin cohabitent, et ça fonctionne vachement bien. Donc Dofus Monster, c'est le Shenmue, c'est une histoire qui concerne aussi les tout petits mais aussi les grands, parce qu'il y a aussi quelques éléments dans la BD si vous la lisez une deuxième fois qui heurte un peu l'œil à deuxième vision, donc pouvez voir un peu de profondeur dans l'histoire au fur et à mesure, et c'est vraiment sympa. Donc Dofus Monster tome 1 dessiné par Kunchan et scénarisé par Kunchan, et c'est titré le Shenmue, c'est chez les éditions Ankama,
et on arrive pile poil sur
la pub.
Et on commence, ça c'est du sport, par le dopage. Thierry Roland s'est fait serrer par la volante en possession de Viagra, un médicament uniquement vendu sur ordonnance, et...
Tous les samedis 13h, le podium des dopés de la semaine, c'est sur FMR.
Ouais, surtout, n'écoutez pas du sport, il dit que des méchancetés.
FMR. On continue les sorties bande dessinée dans le supplément week-end.
Ah mais je croyais qu'il y avait de la pub, moi.
Mais ça c'était la pub.
Thierry Roland a été chopé avec du Viagra.
Ah ouais, non, il y avait la pub de la mairie aussi, tu sais.
Oh. Ouais mais c'est rangé n'importe comment, moi je regarde plus dans leur foutoir. Hein. Ils ont qu'à ranger, non mais... S'il vous plaît, on va parler de bande dessinée enfantine un peu. Hein. Et d'ailleurs en plus les auteurs sont là en dédicace tout à l'heure. Au Toulouse Game Show, je crois qu'on va finir par croire qu'on est sponsor ou qu'on touche des sous là-dessus.
T'as pas oublié une BD avant?
Non.
Non
ah si. Pardon si. Vas-y pardon Thomas.
Bon, ben on enchaîne avec on enchaîne avec une tuerie intégrale.
Mutafuka.
Alors Mutafuka Stand 2 est sorti il y a un tout petit moment, on est un peu à la bourre, mais bon, c'est un bouquin qui s'apprécie, qui se lit dans la longueur et qui est pas si rapide à lire que ça, donc soyez indulgents quand même. Donc le tome 2 s'appelle Troublant Trou Noir et c'est dessiné par scénarisé et dessiné par Run et toujours chez les éditions Ankama. Alors, Dark Mid City, de nos jours, mais dans une réalité alternative. Angelino, un petit noir, et son pote Vince, loser à la tête enflammée, comme un Ghost Rider en SD, adorent regarder du catch sud-américain à la télé et nourrir leur cafard. Mais un jour, suite à un accident de scooter, Angelino s'aperçoit que les ombres de certaines personnes sont bizarres, elles ont des oreilles pointues à la Batman. C'est sûrement des hallucinations, sauf qu'un jour, les forces de police débarquent dans son appart miteux pour neutraliser de Lascar. On apprend dans ce tome 2 que ces extraterrestres qui veulent nous envahir, c'est pas la première fois qu'ils tentent. En fait, Hitler lui-même, le plus célèbre des extraterrestres, s'était fait dégommer comme un bâtard dans son bunker. Alors, ça date pas d'hier, mais heureusement, il y a une caste de justiciers qui rôde, les catcheurs latinos. Ouais.
Ah oui, pas mal.
Alors, on peut appeler ce truc une BD, mais... Je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, c'est bien plus que ça. C'est un artbook, un cahier graphique, un recueil d'illustrations qui tabasse, du comics, du manga. C'est visiblement l'auteur Run se fait plaisir. Donc c'est un mec qui était directeur artistique dans une agence avant et qui a essayé de publier au sein de cette agence sa BD, ça a pas marché. Donc entre temps il a fait un teaser en vidéo qui a été primé dans multiples festivals et il sort donc cette BD. Bon voilà, il y a beaucoup de styles. Alors déjà lui-même il dessine avec plusieurs styles, mais à un moment donné il a la marre de dessiner. Ok, il convie un pote, il dit tiens, j'ai un rêve à dessiner d'Angelino, je voudrais bien qu'il soit dans un rendu différent. Donc t'as deux doubles pages pour t'éclater. Ok, ça passe dans un autre rendu. Alors tu vois que ses potes ils sont assez talentueux aussi. Après, à un moment donné, l'action se passe dans le Little Tokyo, donc déjà c'est titré Big Trouble in Little Tokyo. Voilà, donc référence à Big Trouble in Little China, le titre original de Jack Burton. Évidemment, comme ça se passe dans le Little Tokyo, la BD ça vrille au manga, donc les pages deviennent papier épais, c'est en noir et blanc, avec de la trame. Mais vraiment avec les purs codes manga, voilà. On voit une apparition en caméo de Kitano à un moment donné. C'est assez rigolo. Ça utilise aussi les codes des comics, mais à chaque fois, quel que soit le rendu, c'est toujours ça tabasse. C'est une tuerie. À la fin des deux tomes, il y a un cahier explicatif, un carnet graphique où on voit ses influences, des petits travaux qu'il a fait avec justement en utilisant ses personnages ou même des trucs qui n'ont rien à voir, mais toujours dans le même style graphique. Il explique aussi d'où lui vient son influence pour sa BD, puisqu'il a fait le tour de. Il a voyagé à travers les États-Unis, il a découvert la culture latino, il explique ce que c'est que Notre-Dame de Guadalupe, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans la BD. Il y a d'ailleurs beaucoup de passages où elle apparaît qui sont assez rigolos. Par exemple, il y a les deux héros à un moment donné qui évitent de peu un accident de voiture, et tout d'un coup on voit une photo de l'atelier de Run avec une vraie photo avec ses crayons et tout, et puis il y a Run qui parle, il dit merci Notre-Dame de Guadalupe d'avoir épargné mes héros. C'est assez rigolo, on sort de la BD.
Surtout que c'est une religion qui est vraiment à part en plus du christianisme au Mexique. T'as voilà. Trois religions principales au Mexique. Tu as la Notre-Dame de Guadalupe, le football et le Coca-Cola.
Et le catch.
Oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié.
Alors, à un moment donné, il n'y a plus de cases, il n'y a plus de cadre. C'est juste un fond blanc avec des têtes de personnages où le mec, il est complètement amoureux de la nana. Et puis, c'est avec un ton velouté derrière. Franchement, il y a autant de styles graphiques qui fonctionnent tous. Pas un par page, c'est exagéré, mais c'est vraiment un fourre-tout où vraiment l'auteur se fait plaisir et nous avec. C'est une BD vraiment à conseiller d'urgence. C'est des très beaux objets en plus, puisque les deux tomes du sport les a feuilletés. Là, les auditeurs n'ont pas la couleur, mais le papier.
Ça pète,
papier glacé, papier cartonné.
Format comics, voilà. Bouquin assez épais, 192 pages.
Voilà, il y a un tampon disapprove de by the Comics Code Authority.
Tu m'étonnes.
Et les scènes d'action tabasse, il y a des duels de sabres, de flingues, c'est toute la culture graph, hip-hop également qui y passe, donc c'est vraiment extra. Mutafuka's tome 1 et 2 chez Ankama Edition, scénarisé et dessiné par Run, et le tome 2 s'appelle Troublant Trou Noir.
Thomas découvre désespéré ce qu'est exactement la bande son. Savoir Tin Tonic, extrait de Messe pour le temps présent de Pierre-Henri et Michel Colombier, remixé par Dimitri From Paris, qui comme chacun le sait est un DJ qui a commencé sur NRJ.
Comme quoi hein.
Comme quoi, voilà. Bon, tu me diras, le restaurateur à côté de chez moi, il a animé le top 50 sur NRJ dans les années 80, tu vois. Au niveau national. Rien à voir, on va passer à la bande dessinée pour enfants cette fois-ci.
Oui.
Avec New Mao, le tome 3 des aventures du chat chinois vient d'arriver par le studio Jihan, édité par Xiaopan. A savoir que c'est produit en Chine, mais c'est une la première publication se fait en France. Hein. C'est une particularité à connaître. Le tome 3 s'appelle Le chat chinois tombe amoureux. Vous vous souvenez de New Mao, ce chat gaffeur, goinfre, mal élevé et fouteur de bordel? Un chat qui est devenu le point central de la vie de sa maîtresse, future victime du syndrome de l'enfant unique, gâté pourri. Or donc ainsi qu'il fut découvert que New Mao était un chat avec des roubignoles...
C'est un livre pour enfants quand même.
Bah ouais, quand même.
Bon. Et non une chatte avec des périodes de chaleur...
Oh non, oh là, n'importe quoi, mais non.
Ça va, ouais.
Donc ce beau, fier, mâle, fier de ses...
Ah mais non.
Attributs masculins, roule des...
Non, plus.
Mécanique, depuis qu'il a appris que sa maîtresse allait lui amener une chatte...
Oh mais non.
Allez.
C'est, chatte, c'est parce que c'est une femelle chat, quoi. Il y a rien de... Ouais. Bon, je m'étonne de ses cris d'orfraie. Alors que je sais pas, j'aurais pu faire des jeux de mots explicites avec les mots queue, fourrure, caresse, lécher.
Ça suffit, merde, c'est
scandale quoi, faut pas déconner quoi.
Bon, ça va, d'accord, j'ai compris. On peut retirer le sticker moins 12, hein, s'il vous plaît. On peut reprendre ? D'accord. Le problème, c'est que la promise de ce mariage arrangé n'arrive pas seule, mais aussi avec un autre mâle, conquérant et combatif, dans le même appartement. L'autre souci, c'est que la petite chatte est vraiment trop jeune pour accepter les avances de New Mao. Mais la situation a complètement bouleversé New Mao, qui va complètement changer de personnalité. Qu'est-ce que ça va être quand il va être papa? Au fait, j'ai une portée de chaton à faire gagner à l'antenne... D'accord, c'est une mauvaise idée. Bref, c'est une toute autre facette du chat le plus enquiquineur de l'Est que nous découvrons. Doux, attentionné et surtout jaloux. De très bonnes tranches de rigolade avec ce graphisme étonnamment doux et mignon. Et si vous adorez l'album, bah ça tombe bien, les auteurs sont dédicaces cet après-midi à Balma, au TGS, au Toulouse Game Show. Et ils avaient déjà fortement apprécié leur passage à Angoulême en janvier dernier, et j'espère que vous leur ferez honneur. D'ailleurs, j'espère que Patrick leur expliquera ce que c'est qu'un kebab.
Ah oui, d'ailleurs, on me passe un papier. Oui, si quelqu'un qui parle couramment le mandarin est disponible cet après-midi ou demain et qui nous écoute en direct, ce serait très sympa de nous appeler immédiatement en régie. Merci.
Le numéro, c'est le 05 61 580 580 05 61 580 580. Pauvre Patrick, j'ai l'impression qu'il va tester la méthode assimile. Patrick étant donc l'éditeur Tiopan et qui se retrouve en panne de traducteur... À cause des grèves.
Oui, parce que les Chinois, ils parlent pas automatiquement anglais non plus.
Voilà, et encore anglais très légèrement, ce qui m'a fait comprendre, voilà. Et que notre Fan, qui a été notre traductrice...
Fan.
Pour notre traductrice parvenue des auteurs chinois et actuellement donc ce week-end, traductrice d'un séminaire où elle est avec le prêtre du... alors... Il faut que je me souvienne, c'est le temple du mont du nuage blanc de Pékin, donc qui sont à Toulouse en ce moment, donc elle fait la traduction. C'est tout un poème, ça j'adore cette émission. Tout à fait autre chose. Aurélia Horita, le deuxième tome de Fraises et Chocolat est arrivé.
Ouais, du cul.
Merci. Sticker moi 16, s'il vous plaît, la régie finale. Vient de sortir aux éditions Les Impressions Nouvelles. Aurélia Horita est une jeune dessinatrice tombée éperdument amoureuse de Frédéric Boilet. Frédéric Boilet est un dessinateur français qui est exilé au Japon où il a fondé, entre autres, le mouvement Nouvelle Manga. entre autres en racontant ses histoires d'amour. Une histoire d'amour intense et passionnée qu'Aurelia Horita raconte dans Fraises et Chocolat, sans phare, en toute sincérité et sans cache-sexe. Ce qui en fait une autobiographie érotique, passionnante et vraiment tendre. Mais combien de temps va durer son amour d'une génération de différence ? Ce deuxième tome débute par un voyage de dédicace avec Kan Takahama pour l'édition francophone de Kinderbook qui était sortie en janvier 2005 chez Casterman, mais surtout ancienne amante de Frédéric Boilet. Le courant passe immédiatement entre les deux filles qui se font confidence sur confidence pendant la tournée européenne. Seulement Aurélia a ses doutes. Frédéric est connu pour avoir eu plusieurs aventures amoureuses, parfois en même temps. Qu'en sera-t-il pour elle ? Elle qui a tout plaqué en France pour vivre avec lui au Japon, une société qu'elle ne connaît pas et qui n'est pas spécialement ouverte aux étrangers. C'est mignon tout plein, polisson, frais. Et surtout, on est heureux pour tous les deux. On a l'impression d'être voyeurs en lisant cette BD. Et pourtant, il le raconte sans fausse pudeur ni quoi que ce soit. Le trait jeté, un peu manga de presse, comme nos voisins les Yamada, nous donne une immense spontanéité et fait encore mieux passer l'angle très déshabillé de sa bio. Une œuvre où elle raconte tout, même ses déceptions et... Comment dire ? Bon, une petite mise au point. Amis audi spectateurs, vous vous souvenez que nous avions reçu Frédéric Boilet et Aurélia Horita sur ce plateau en direct le 8 avril 2006. Aurélia Horita venait justement de faire publier le premier tome de son autobiographie. Et Thomas n'a pas pu s'empêcher de... Comment dire ?
Eh bien, de me moquer ? Oui.
Magnéto, Serge.
Amis auditeurs qui ne reçoit pas la couleur, l'équipe de Supplément au week-end peut dire deux choses sur le physique de Mademoiselle Horita. 1. Elle est très belle. 2. On pourrait croire qu'elle est japonaise.
Ouais, donc d'ailleurs à ce propos, on les avait rencontrés il y a 2 ans à Angoulême. Et je pense que tu t'en souviens encore.
Oh non.
Si, t'avais commencé à lui dresser la parole en japonais.
Oui, il m'avait dit « Hajimemashite ».
Et là, Fred t'avait dit « Non mais tous les Asiatiques qui sont avec moi, elles sont pas forcément japonaises. »
Et voilà, comment se rendre ridicule. Et donc Aurélia Horita vient de sortir un bouquin qui...
Et comment fâcher Aurélia pour le reste de la journée.
Oh oui, c'est vrai, je n'en suis absolument pas fier.
D'ailleurs, il y a un truc rigolo dans ta bande dessinée Fraises et Chocolat.
Fraises et Chocolat, voilà, de chez les Nouvelles Impressions.
Tu parles de tous ces connards qui se permettent de t'adresser la parole en japonais.
Oui, enfin, connard, oui, c'est...
Ah si, c'est ce que tu as marqué,
oui,
dans ta BD.
Oui, c'est ce que j'ai marqué, mais c'était dans le moment, j'ai dit, oui, c'est des connards. Et en fait...
Mais oui, tu m'as dit, rappelle-toi le gars Angoulême.
Oui, voilà. Je me dis, oui, peut-être qu'il va le lire et qu'il va se reconnaître dedans, en fait. Donc, c'est bien que vous m'invitiez aujourd'hui, comme ça on peut remettre les pendules à l'heure. Hein.
C'est marrant que nos destins soient à ce point liés, tout de même.
Oui.
Enfin, ça la fout mal. Oui, alors moi, je suis encore mort de honte et eux, ils étaient morts de rire pendant la diffusion de cet extrait. C'était le supplément week-end numéro 65. Du 8 avril de l'an dernier, donc avec Fred Boilet, Aurélia Horita, et donc cet épisode malheureux est raconté dans le deuxième tome. Voilà, c'est dans le bouquin, je n'en suis pas fier.
T'as vu, on lui a rappelé en plus pour qu'elle le place dans le tome 2.
Oui, merci.
Alors Thomas a tenté de me rassurer pendant les réunions préparatoires de cette émission.
C'était pas forcément toi, t'étais sûrement pas le seul Angoulême, tu sais, il devait y en avoir d'autres qui avaient fait cette erreur, hein. Et en plus, il a dit connard au pluriel.
Eh ben non, l'enregistrement fait foi. Et vous pouvez bien évidemment réécouter l'intégrale de cette émission sur notre site web supplementweekend.tk, sans accent sans tiret, supplementweekend.tk dans votre navigateur internet. Et connaître donc les raisons du fameux Horita incident à Angoulême. Thomas, espèce de sale vendu. J'espère pour toi, sincèrement, que tu vas me faire une chronique cinéma en béton, hein.
Oui.
Parce que sinon, je vais m'occuper de toi pendant la partie de du sport. Allez, spéciale dédicace pour eux. Love with Tears Apart, le remix, la reprise non diffusée de Stanton Miranda. We're chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Control aujourd'hui, c'est le film sur la vie du chanteur, du feu chanteur de Joy Division, Ian Curtis, et c'est un film de Anton Corbijn. Alors, je sais pas si je prononce bien, avec Sam Riley dans le rôle de Ian Curtis, Samantha Morton et Alexandra Maria Lara. Et donc, on suit justement la courte vie, puisqu'il est mort à suicidé à 23 ans, du chanteur de Joy Division, dans la banlieue un peu paumée de Manchester, son épilepsie, son triangle amoureux, son succès très tôt dans la musique et son... Et le fait qu'il soit marié et qu'il soit papa très jeune. Et justement, c'est un truc qui... le film, on dirait qu'il était fait dans les années 70. Le mec, il est le réalisateur...
Attends, il y a un point très important. Pourquoi c'est extrêmement mythique de parler de Joy Division ? Parce que par la suite, le groupe survivant a créé New Order et a énormément fait à Manchester avec leur boîte de nuit, avec leur label et tout ça, pour renouveler tous les genres musicaux, que ça soit du rock jusqu'à l'arrivée de la techno et tout ça. Ça a vraiment été un point très important, donc c'est pour ça que c'est un élément de culture pop assez important.
Voilà. Et le film est basé sur le bouquin de la veuve de Ian Curtis, Deborah Curtis, qui s'appelle, alors je l'ai noté, ça s'appelle Ian Curtis et Joy Division, Histoire d'une vie. Et donc ça c'est le titre français en fait. Et alors le film, moi je ne connaissais rien du film en y allant, puisque j'ai été traîné par Enflammé. Et donc j'ai couvert, alors déjà le grain, donc c'est en noir et blanc, tu te dis mais on dirait du Raging Bull, hein, mais vraiment là, avec la même optique, puisque Scorsese il avait utilisé noir et blanc pour avoir un côté tabloïd sur la vie de Jack LaMotta. Et là c'est la narration est lente, tu vois des mecs qui sont en train de fumer clope sur clope, ils marchent dans la rue, vraiment le film des 70s. Et en fait le film il était présenté, j'étais complètement largué, à quinzaine des réalisateurs en 2007. Et il a reçu justement la caméra d'or du premier film en fait. Et donc en voyant le film, tu crois vraiment que c'est un film de 70s. Le réalisateur avant, il avait été photographe. Il a aussi fait un clip pour C'est amusant pour New Order. Et il disait, pour être pris au sérieux, c'est le principe de tous les ex-réalisateurs de clips qui veulent se mettre au cinéma, c'est que si tu veux être pris au sérieux, faut pas faire un film sur la musique. Mais lui, il avait une telle vénération pour Ian Curtis et Joy Division, il s'est dit, je peux pas passer à côté. Donc il a quand même fait le film, et c'est une réussite totale. Et donc justement, tu disais, New Order avait été fondé par les trois membres survivants de Joy Division, et je crois que encore aujourd'hui, le seul membre d'origine, c'est Brooke.
Merde. C'est con, j'avais l'album chez moi, tu vois, je l'avais dans le disque et j'ai oublié.
Ouais, je crois que c'est le bassiste en fait qui est resté Peter Hook. Alors Hook, ouais. Voilà. Donc voilà. Alors Sam Riley, l'acteur principal, on croirait vraiment que c'est une réincarnation d'Ian Curtis. C'est le mec, il est extraordinaire. Quand il chante sur scène, dans la vie de tous les jours, c'est un mec qui il respire le naturel. Mais c'est, de toute façon, c'est le principe aussi des biopics. Hein. On voit toujours que l'acteur principal, il est extraordinaire parce que justement, il est porté au nu, parce que il joue le rôle d'une star du rock. Mais là, c'est encore plus flagrant que d'habitude. Il est secondé par Samantha Morton qui joue sa femme. Alors le nom vous dira peut-être quelque chose. Celle qui jouait la précoque Agatha dans Minority Report, celle qui est un peu qui a été passée toute sa vie allongée, donc elle est un peu complètement déphasé quand t'es dans la réalité ensuite. Et tous les interprètes, vraiment c'est ce film, c'est renversant quoi. Un peu de longueur à la fin, puisque le film s'attarde vraiment sur la souffrance de Ian Curtis, puisque il a pris pas mal de décisions très très jeunes, comme l'idée d'avoir un bébé et tout. D'ailleurs, la narration montre le film comme étant cette décision comme la dernière qu'il ait prise, puisqu'ensuite il va se contenter de subir. Il va tomber amoureux malgré lui d'une maîtresse. Il va être absolument incapable de choisir entre sa femme et sa maîtresse. Il va subir aussi le succès de Joy Division sur scène.
C'est justement ce que raconte New Order dans Bizarre Love Triangle, que j'ai foutu en intro. Voilà.
Et le film est construit sur les moments de la vie de Ian Curtis et ses répercussions ensuite sur les paroles de ses chansons. Parce que justement, ils ont sous-titré aussi les paroles des chansons pendant qu'il subit sa vie aussi. Et là, tu dis, mais c'est vraiment un écho parfait quand il dit She's lost control, il parle de sa femme qui perd son mari, etc. Il y a a aussi des chansons qui parlent de son état d'épilepsie, puisque c'est une maladie qui se découvre à un moment donné. Du coup, à la fin, le film s'attarde un petit peu sur les circonstances qui vont le pousser vraiment à franchir le pas, puisqu'il aura trois tentatives de suicide, la troisième étant fatale. Ah, ouais. Voilà. Et donc, tu te dis, mais alors, est-ce qu'il supporte plus justement que sa vie lui échappe? Est-ce que c'est les crises d'épilepsie qui le paralysent? À un moment donné, il est incapable de chanter sur scène parce qu'il peut plus assumer la pression. Et c'est un film qui sur la fin qui est un petit peu longué, qui fait 2 heures je crois, mais vraiment renversant, et même il y a même pas à besoin d'apprécier Joy Division ou New Order. Moi je connaissais pas du tout Joy Division avant, à part la chanson Love Will Tear Us Apart, et t'as vraiment envie d'écouter du Joy Division après, donc c'est vraiment un film extra quoi. Donc c'est Control, donc inspiré de la chanson She's Lost Control, et justement c'est assez amusant comme clin d'œil, puisque évidemment il y a absolument pas de question de contrôle dans le film, puisqu'il contrôle rien. Et c'est un film d'Anton Corbijn avec Sam Riley et Samantha Morton, et c'est un film qui a eu le prix de la caméra d'or, la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2007, et je vous le conseille encore puisqu'il est encore à l'affiche à l'Utopia jusqu'à début décembre.
Donc ça tombe bien, transmission de Joy Division.
C'était fait à la main, ça, à l'époque, hein, sans boîte à rythme.
Ouais, mais ça existait déjà, les boîtes à rythme, quand même.
D'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'en discutais tout à l'heure avec
pile poil, tu vois.
Avec Thomas, mais donc il faut pas oublier que Joy Division et surtout le groupe New Order ont vraiment fait exploser les choses à partir de Manchester. Ils avaient une boîte de nuit dans laquelle il y avait un certain DJ Pedro qui a commencé, alias Laurent Garnier, et c'est là où il y a eu vraiment les plus importants labels musicaux indépendants d'Angleterre. Qui ont tout changé, tout chamboulé, notamment Blue Monday, tous ces groupes-là ont explosé à partir de là. Et encore là, il y a un morceau qui passe sur MTV2, la chaîne pop anglaise, s'appelle Let's Play la Joy Division. Donc c'est vraiment un truc qui cartonne encore et tout le reste. Salon du sport, lui, il est là pour parler de
Comics avec la sortie avant le numéro 50 dont je vous avais parlé la dernière fois,
oui,
que j'étais venu, hein, le numéro 50 c'est pour décembre, donc ça va être dans une quinzaine de jours je pense, Extra Comic Box hors série Extra, c'est le numéro 2. Le numéro 1 c'était un spécial Marvel, bah celui-là c'est un spécial DC, hein, Comic Box noir qui a peur du Batman, avec beaucoup de trucs qui ont trait sur eh bien ce qu'on appelle le roman noir, la bande dessinée noire. Alors ça peut être soit plutôt le genre policier, mais ça peut être également dans le style dark, c'est-à-dire gothique, enfin des petites choses comme ça. Avec quand même dans ce numéro exceptionnel quand même, hein, parce que bon ben au niveau des interviews, on a quand même Ed Brubaker, Brian Azzarello et Neil Gaiman. Compagnie de Roger Avary, ce qui est
ouais,
pas rien.
Ouais.
3 BD inédites de Batman qui vous sont proposées. La première par Darwin Cook. Alors celle-là, elle est complètement starbée. non, c'est la deuxième. C'est celle-là, Gotham Knights avec Chris Pachalo et Cyrus Morris. Là, starbée, plus starbée que ça, tu meurs. En noir et blanc, enfin truc. Et la dernière de Brian Azzarello au scénario et de Tim Sale, c'est celle que t'as vue là, de Tim Sale, donc Tim Sale qui est le dessinateur
Heroes.
De Heroes, voilà, vous avez tout compris. Et
qu'on a scandaleusement loupé l'année dernière à Angoulême, on l'a même pas interviewé.
On pouvait pas savoir.
Ouais.
Ouais, dommage. Et donc,
bah, Heroes venait tout juste d'être lancé.
C'est lui qui fait ce petit short là, sympathique, hein, je dirais. Quoi,
oui, d'ailleurs, on reconnaît bien le style des
de la BD. Tout de suite là, hein, ça, ouais. Caractéristique quand même, quoi.
Ah, c'est pour ça que tu me montrais ça tout
voilà,
à l'heure.
Voilà. Et en plus, avec ce numéro. Bon, qui coûte un peu plus cher que les numéros originaux, il coûte quand même 7,90. Vous avez le calendrier 2008 de Comic Box. Et qui est en fait un calendrier qui réunit comme illustration des anciennes couvertures de Comic Box. Donc, avec les trucs originaux et tout, quoi. Et regarde, le mois de juillet, alors là, le mois de juillet qui tue, quoi. Hein, le mois de juillet qui tue, tu veux le voir? Le mois de juillet qui tue.
Ah, les Watchmen.
Yes.
Voilà.
Yes.
Sabrina, voilà. Il faut que tu lises les Watchmen.
Voilà. Avec la sortie, t'en as même pas parlé, hein. T'as vu là,
oui,
la grosse pub qui
méga
fait,
coffret collector de la mort qui tue.
Coffret DC Absolute des Watchmen, 65€, 464 pages.
Je rentre
à la maison, je regarde le nombre de pages que j'ai sur mon Watchmen. S'il y en a plus dans celui-là, je l'achète.
T'as quelle édition, toi? Non, mais t'as quelle édition?
L'édition
cartonnée.
Normal, cartonnée. Quoi.
Ouais, mais laquelle? Celle de Zenda en 6 tomes? Ou celle de Delcourt en un seul?
Non, c'est le seul.
Delcourt en un seul.
Ouais. Oui, d'accord, ok. Donc, comme moi, tu l'as acheté la réédition 10 ans après, quoi.
Yes.
Ah, tout ça pour dire que Xavier avait l'édition originelle.
Voilà. Non, même pas.
Ah, bon. Alors, par contre, tiens, on parlait
de. Mais il a les deux, lui.
on parlait d'Heroes tout à l'heure, je voudrais pousser un coup de gueule devant les
Attends, on va pousser un cri.
Devant l'effronterie sauvage et complètement gratuite de notre ami The Bebe, qui a fait une connerie, mais
sur son
blog, et je le hais jusqu'à la fin de ma vie.
Attends, quand tu sais qu'il y a un certain code spécifique, c'est qu'il faut pas ouvrir dans son.
Ah bah, il a pas marqué qu'il y avait un spoiler sur le titre du billet, ah, merde.
Voilà.
Et voilà. Ouais, et donc, voilà. Il nous spoil un épisode, je crois que c'est le 9 d'ailleurs, de la nouvelle saison d'Heroes. Et voilà.
Mais elle est mauvaise, à ce qui paraît. Même les auteurs se sont excusés.
Oui, tout à fait. Avec un personnage très, très, très important qui meurt et qui monte la photo. Voilà. C'est je le hais. Je te déteste, The Bebe.
Juste une question là, on passe à la télévision?
Ah, si tu veux, quand le café du commerce aura terminé, pas de problème.
Du sport, la télévision!
avec du lourd pour commencer. C'est con, putain, si j'avais complètement zappé, et j'aurais pu taper le disque pour avoir le générique, tu vois, c'est con. Avec, à partir de jeudi prochain, ça y est, on saura enfin,
qui a tué hier.
Mais non, quel est le final des Sopranos?
Ah, oui.
Avec dès jeudi.
Attends, oui, vas-y.
Avec dès jeudi prochain, donc 20h45, la diffusion des 9 épisodes inédits, donc, qui restent de la saison 6. Il faut se rappeler que cette saison 6, elle a été, exceptionnellement longue en durée de fabrication et également en durée de négociation, parce que il y a eu au départ les négociations entre la chaîne et David Chase, Giacomo De Cesare de son vrai nom. David Chase, c'est un nom de scène, on va dire, hein, ok, qui est le scénariste créateur de la série Les Sopranos, qui voulait développer complètement l'histoire, mais terminer l'histoire, mais la développer suffisamment pour que la fin soit crédible. Et donc, à la place d'avoir le nombre habituel d'épisodes par saison qui était de 12 ou de 13, me semble-t-il, pour les Sopranos, pour les 5 premières saisons, il a exigé d'avoir plus d'épisodes, donc plus de pognon à mettre dedans.
C'est pour ça que les chaînes au départ... C'était aussi une astuce, parce que à chaque nouvelle saison, les acteurs demandaient de plus en plus, donc il a dit, ok, on fait une saison longue pour, un, les niquer, deux, terminer de manière acceptable. C'était ça l'astuce.
En tout cas, ça a mis vachement de temps et il a fallu tourner ça en deux fois parce que les différents acteurs de la série étaient également pris par des obligations contractuelles différentes de celles des Sopranos. Ce qui fait que, en plus, ajouté au fait qu'on a dû scinder le truc en deux, parce que Gandolfini, à un moment, il a fait vraiment le con pendant un an. Il a dit non, moi j'accepte de tourner, mais il faut me payer vraiment bonbon à fond les manettes. Les négociations avec Gandolfini, entre Gandolfini, la chaîne, David Chase et tout ça, a duré presque un an, quoi. Ce qui fait que entre les 12 premiers épisodes et les 9 épisodes suivants, il s'est passé un an quand même, quoi, hein, de non-tournage, quoi. Ce qui fait que ça a un petit peu décalé et on a droit donc à ces 9 épisodes. Et Canal Jimmy a un petit peu respecté le rythme, on va dire, de diffusion tel qu'il était aux États-Unis. Aux États-Unis, l'épisode final, le 86e, donc, a déjà été diffusé. On sait déjà, hein, en principe, ce qui se passe, hein, dans ces derniers épisodes. Et il y a déjà des supputations qui vont bon train quant à la vraie fin, en fait, la fin supposée de ce qui se passe dans Les Sopranos. Parce que c'est surtout des non-dits, on va dire. Bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. On est aux 3 premiers épisodes jeudi prochain de cette série, dernière série de 9 épisodes de la saison 6 avec chez Les Sopranos. Alors, on se rappelle la fin du dernier épisode vu sur Canal Jimmy, hein, c'est la fête de Noël et tout. Bon, Christopher, lui, il est redéfoncé comme c'est pas permis et tout, ça y est, il a de nouveau recraqué, mais vraiment à fond les manettes, hein. Généralement, les rechutes, c'est toujours pire, quoi. Et on voit toute la famille qui est réunie au pied du sapin dans un beau salon avec la magnifique chanson de Sinatra qui chante Noël. Enfin, c'est beau, c'est magnifique et tout. Ça va certainement pas durer dans l'épisode 13, donc qui s'appelle Chez les Sopranos, suivi du 14 phase terminale et du 15 au vieillesse ennemie. Les Sopranos, donc, c'est jeudi prochain, à partir de jeudi prochain sur Canal Jimmy, et c'est carrément en full frontal. Et alors ça, j'adore. Full frontal avec M6 et Prison Break.
Saison 3.
Ouah, direct dans la foulée là, M6 font fort également, et moi je trouve qu'ils font encore plus fort que TF1, hein, qui aurait pu faire pratiquement la même chose, quoi, avec Heroes, quoi, tu vois. Mais bon, ils ont dit, oh non, on va vous le faire en vidéo on demande et tout. Allez-y, payez si vous voulez des trucs tout frais et tout. Allez-y, crachez au bassinet et tout. Alors que M6 se disent, ouais, peut-être que ça va peut-être mieux le faire comme ça. Et c'est vrai que vu la nature un petit peu addictive de la série Prison Break, hein, il faut être au courant de l'intrigue, faut suivre, faut pas être trop largué quand même, hein, parce que sinon ça devient un petit peu ledge. Et là, cliffhanger, bien sûr, fin de la saison 2, hein, on a vu
non,
ça avant-hier.
Il y avait aussi,
j'ai pas vu. Bref.
Le fait que TF1 diffuse Heroes 24 heures après la diffusion américaine. Donc ils peuvent faire le sous-titrage, mais ils n'ont pas le temps de doubler. M6 a peut-être le temps de doubler, et c'est pour ça qu'ils peuvent.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé jeudi?
Jeudi dernier, ce qui se passe, c'est que on a un petit aperçu de ce qui va arriver dans la saison 3. On avait repéré déjà dans quelques épisodes un nom bizarre. On savait pas si c'était des initiales, qui s'appelait Sona. En fait, Sona, c'est un pénitencier au Mexique, dans lequel, ou au Panama, dans lequel vont se retrouver eh bien Michael, hein, puisque il s'est accusé du crime que Sarah a commis, hein, c'est-à-dire il est descendu le mec. On va y retrouver T-Bag, on va y retrouver Bellic et on va y retrouver Mahone dans ce pénitencier. Donc début de la saison 3. Ça risque de ressembler un petit peu à Oz, quoi, tu vois, genre ambiance,
des psychopathes,
enfin bon, les chroniques ça peut être rigolo. Quoi.
Les chroniques sur les blogs américains ont plutôt dit c'est plutôt une mauvaise blague. Hein. Ils n'ont pas franchement apprécié.
Ouais, mais depuis le début c'est une mauvaise blague.
Non. Il y en a qui ont trouvé que c'était sympa, etc. Mais là le troisième n'est pas passé du tout.
Alors c'est jeudi prochain donc, hein, c'est en full frontal, hein, c'est à partir de 20h50 sur M6. Un seul épisode qui s'appelle Survivre, ouais, bah ouais, on verra bien, quoi. Et c'est suivi par cette série qui est vraiment pas mal du tout, quoi, qui a quelques faiblesses, là, sur la durée, ça commence à être un petit peu ledge, mais qui s'appelle Kidnapped. Et là aussi, c'est une série à histoire, à suivre, hein, donc si vous avez loupé le début un petit peu, quoique c'est assez simple, hein, c'est le fils d'un grand bourge qui se fait kidnapper, et on fait appel plutôt que de faire appel aux flics, parce que sinon le gosse décède, ben on fait appel plutôt à un détective privé, et il se trouve que bon, ben les flics se mettent quand même sur le coup, et ça raconte un petit peu l'histoire, ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont retrouver le gosse, quels sont les petits secrets, pourquoi on l'a kidnappé, pourquoi le coup monté, enfin bon, et un petit jeu de piste qui est assez intéressant pour l'instant, quoi, dans cette série Kidnapped, avec dans le rôle principal celui du détective privé qui s'appelle Knapp, Jérémy Sisto, qui est pas mal. Il y a également Dale Lindo dans le rôle du patron de l'équipe de FBI qui est chargé des enlèvements, et on retrouve également Timothy Hutton dans le rôle du papa, et Dana Delany dans le rôle de la maman. C'est une série qui est assez intéressante, qui est assez noire quand même, hein, elle est quand même cryptée moins 12, donc il y a quand même des trucs assez bien, assez trash, assez violent quand même dans cette série. Et ça se laisse tout à fait regarder. Il y a eu 13 épisodes, donc poète, ça s'arrête, terminé. C'est un petit peu le principe d'autres séries qu'on a déjà vues qui étaient assez intéressantes. Et ça passe donc juste après Prison Break. Enfin, jeudi prochain, Prison Break, saison 3, il y a un épisode. Puis un petit documentaire d'une demi-heure sur comment on a fait Prison Break et toi, ouais, c'est super.
Ouais, ouais, mal, toute l'équipe est trop bien, enfin, bon, le ouais, scénario est fabuleux.
Les trucs promo à fond les manettes, quoi, ouais, comme d'habitude.
Quel talent.
Et après, donc, à 22h15, donc, cette série qui s'appelle Kidnapped. Une série inédite, c'est possible, et je vous la donne en mille. C'est pas du tout récent, ça date de 2004, mais c'est sur Série Club. Ça s'appelle Doctor Vegas. Et c'est con parce qu'eux aussi ils ont eu à avoir à subir la concurrence full frontale d'autres séries sur le même genre, séries médicales et tout.
Doctor House.
Doctor House, pour ne pas la citer.
C'est étonnant, je
et
ne
deviner
pas...
qui est tombé dans le sac. Doctor Vegas avec quand même un casting vachement intéressant. Rob Lowe dans le rôle principal, il comptait justement sur cette série pour se tirer de West Wing. En fait, quand il a vu que ça n'a pas marché, vu qu'il n'y a eu que 10 épisodes hein, de tournée, de diffuser, il est retourné dans West Wing, hein, à la Maison Blanche. Il y a également Joe Pantoliano, voilà, qui a officié dans Les Sopranos et qui a eu sa propre série un petit peu plus tard, qui n'a pas duré non plus. Et le retour de Tom Sizemore, son nom veut tout dire. Et ouais, excellent dans Robbery Homicide Division. Et bon, voilà, quoi. Donc ça aurait dû marcher. Ça n'a pas marché, mais bon, Série Club vous propose quand même la diffusion des 10 épisodes, en version originale en plus, s'il vous plaît, à partir de lundi soir, 22h30. Alors l'histoire est très simple, hein, c'est l'histoire d'un chirurgien qui travaille dans un hôpital et qui se fait débaucher pour travailler dans une clinique privée à Las Vegas. Voilà, tout simple, le pitch, et on peut voir ce que ça peut donner de toute façon. Et je suis le Docteur Vegas par Las Vegas, la série de Casino Montecito avec James Caan, qui d'ailleurs tire sa révérence à la fin de la saison 4 de Las Vegas. Saison 4 qui débute justement demain après-midi sur TF1 avec la diffusion de 2 épisodes, pas moins, le final de la saison 3 qui s'appelle Le Père de la Mariée 1, suivi du premier épisode de la saison 4 qui s'appelle Le Père de la Mariée 2, et James Caan à la fin de la saison 4.
Étonnant,
donc...
je suis pas surpris par le deuxième.
Et James Caan donc tire sa révérence à la fin de la saison 4 et est remplacé par Tom Selleck.
Non.
Là il fait les boulas,
en Ferrari.
Non, quand même pas, quoi.
Je préfère James Caan, moi.
Ouais, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose.
On sait jamais, hein. Il avait côté très très noir dans Magnum PI. Il a aussi fait d'excellentes bouses de SF dans lequel il était presque crédible comme flic dans une production fauchée. Donc.
Alors, du français.
Désolé,
à présent, avec l'une des productions de Canal+, hein, toujours très ambitieuse et toujours très avant-gardiste, on va dire, au niveau télé française. Nouvelle.
Merci Bruno Gassio.
Hein?
Merci Bruno Gassio.
Non,
directeur
là, c'est pas Gassio. Non, mais c'est pas Gassio là qui est dans le coup. C'est c'en est un autre qui est responsable du domaine fiction, c'est de la patelière. Voilà, c'est le fils de l'autre, quoi. Voilà, parce que bon, la télé, c'est le fils de, c'est plus facile, tu vois, pour y travailler. Ça s'appelle La Commune, donc c'est interprété avec un casting haut de gamme. Le scénariste, c'est Abdelraouf Dafri. Réalisateur, c'est Philippe Tribois, qui nous a déjà fait un docu-fiction. L'embrasement à propos de ce qui s'était passé le début des émeutes de, il y a quelques années, Clichy-sous-Bois et toute la bande, là.
C'était 99. Non, 99, je m'excuse, c'était
2005.
Ouais, 2005, voilà, c'est ça. Ça a été tourné à Rosny-sous-Bois, donc, carrément, dans la cité, et ça parle, bien entendu, de la cité, de la vie dans la cité, dans la commune, avec un narrateur. Alors là, c'est un petit peu emprunté à Oz, hein, avec ce narrateur-là qui est dans la cage, hein, tu sais, quoi, dans chaque épisode de Oz et tout, quoi. Non, pas forcément. Non, il explique les choses calmement, quoi. Interprété par Harold Perrino dans Oz. Là, c'est Omer Sisley qui s'y colle. Alors bon, faut aimer, hein. Il y a également Doudou Moista. Il y a également Doudou Moista, ex-rappeur Francis Renault, qui est tous les bons coups, hein. De toute façon, Francis Renault, il était l'un des bons copains d'Olivier Marchal, hein, vu qu'ils étaient dans Police District. Ensuite, on le voit dans Quai des Orfèvres, on voit dans Gangster, enfin bon,
c'est le blond, hein.
Ouais, le blond, là, ah, le petit nerveux, là. Ouais. Il y a Olivier Barthélémy également, Nadia Bétache, Zina Fikri, donc, dans cette série qui se décompose en 8 épisodes par saison. Là, eh bien, on vous propose les deux premiers sur Canal+, le premier et le deuxième, à partir de 20h50, lundi prochain, La Commune. Donc, ce soir, il y a du Columbo et un double Columbo à l'affiche. Et là, quand même, du bon.
Attends, merde, il y a M6 qui enfin fait la reprise de Jericho.
Non.
Après,
négatif.
Ah si, ils ont coupé une semaine et là ils reprennent normalement ce soir.
Si, oui, j'ai vu la bande annonce hier.
Oui, mais enfin bon, ouais, très bien, tant mieux pour eux. Non, là,
négatif pour lui, d'accord, ok, j'ai compris.
Je vous propose quand même deux Columbo avec le premier qui est un modèle du genre. On peut le voir et le revoir, celui-là, il est terrible, hein. C'est comme ceux avec Patrick McGowan. Tiens, justement, c'en est un avec Patrick McGowan, mais qui est juste derrière la caméra, L'Ange déçu de 76, avec Robert Vaughn dans le rôle du méchant, et Fred Draper et Diane Baker. C'est ce soir.
Anti-coon au bord de la piscine et tout ça.
Ouais, c'est ce soir sur TV Braise, la chaîne de Patrick Lelay.
Ouais. Puis Robert Vaughn, ça te change un peu des hommes de l'oncle.
Et alors, c'est suivi à 22h30 d'un autre Columbo, Meurtre à la carte de 77, donc une année après L'Ange déçu, dont le réalisateur est un certain Jonathan Demme. Hein, le mec qui nous a fait Philadelphia, plein d'autres trucs.
Science des agneaux.
Voilà, bon ben, pas n'importe qui. Et dans ce Meurtre à la carte de 77, eh bien, on y retrouve Louis Jourdan, Richard Dysart et Shara Danez, qui est
je sais pas.
Qui est la vraie Madame Columbo dans la vie. Shara Danez, voilà, je vous l'ai dit et je vous le répète à chaque fois.
Merde.
Ouais,
attends,
ouais.
Je vais noter.
C'est la vraie Madame Columbo. Je termine avec au niveau des séries avec ce qui se fait pratiquement de mieux. Moi, ce qui m'a le plus flashé cette semaine à la télé, c'est depuis lundi dernier la diffusion sur Canal Jimmy de Dirt, qui veut dire saleté, saloperie, enfin pour les gens qui seraient pas trop au courant. Merde, c'est con, j'aurais pu prendre le morceau des Stooges. Production Courteney Cox, David Arquette, avec dans le rôle principal, bien entendu, Courteney Cox, mais également Ian Hart, Josh Stewart et Timothy Bottom. Dans Dirt, eh bien, on tombe et on trempe en plein dans le monde d'un magazine à scandale, un double magazine à scandale, car Courteney Cox est patronne et rédactrice en chef de deux magazines à la mode et également qui publient des potins
sur le tout Hollywood, vu qu'ils sont en plein dans la place à Hollywood, Los Angeles, bien entendu, et en utilisant pour ça tous les moyens habituellement connus par les paparazzi. Alors Courtney Cox, elle est la patronne de des deux magazines. Ian Hart, excellent, mais vraiment très très bon. Hein. Ian Hart, c'est un acteur anglais. On l'avait déjà vu dans dans d'autres films. Je crois il a fréquenté Ken Loach, des acteurs ou Stephen Frears. On l'a vu dans plusieurs films comme ça. Il joue le rôle du paparazzi complètement schizophrène qui doit avaler plein de pilules quoi pour avoir pas trop de vision psychédélique. Enfin bon, c'est à tomber à la renverse, hein. Vraiment interprétation magnifique de Ian Hart. Courtney Cox se démerde vraiment très très bien parce que bon ben 10 ans de Friends, ça vous plombe quand même une carrière à mon avis quoi. Il y en a d'autres qui ont laissé des plumes. On a vu ce que ça a donné pour Matthew Perry et même les copines hein, d'ailleurs. Hein, Jennifer Aniston, c'est pas terrible. Bon, elle maintient son cap parce que bon au niveau
elle était avec.
Elle a été avec et puis bon elle a un haut de gamme on va dire pour l'instant qu'elle peut maintenir. Mais enfin bon c'est pas terrible non plus. Quant à Lisa Kudrow, bon. Elle a tenté un comeback avec une série qui parlait d'elle, vraiment de sa vie après Friends et tout, mais ça n'a pas marché. Et là, Courtney Cox, ça fait quand même assez fort quand même, parce que bon, ben, elle est carrément pratiquement à l'antipode du genre de personnage qu'interprétait dans Friends. Et là, c'est vraiment un personnage antipathique. Bon, je l'avais déjà dit, je répète, hein, la mode est quand même au héros antipathique, au héros qui,
Diable s'habille en Prada.
Ouais, non, mais où tu peux difficilement t'identifier à ce genre de personnage parce qu'il y a toujours quelque chose qui déconne, parce qu'il y a toujours un truc qui est pas net.
Dexter.
Et là Courtney Cox, bah, elle tire vraiment bien son épingle du jeu. Elle est vraiment très très convaincante, très crédible, hein, mais il faut dire que elle est servie par un scénario en béton, par une façon de filmer très moderne, mais qui est vraiment en béton aussi quoi. C'est vraiment du haut de gamme quoi, ça vaut le coup. Et en plus il y a bien entendu chaque épisode plusieurs petites historiettes on va dire hein, qui vont faire qu'on peut regarder les épisodes indifféremment l'un de l'autre. Il y a pas tellement, c'est pas une histoire à suivre, mais il y a quand même un petit fil conducteur quoi qui est assez intéressant et où on pénètre pas seulement dans l'intimité des personnages qui font le journal, mais également dans l'intimité d'un acteur d'Hollywood qui va devenir un formateur pour le magazine et dont la copine est l'une des starlettes en vogue qui va monter, qui va tourner dans les prochains blockbusters de Hollywood. Tu vois, il parle, l'acteur parle de son prochain film qu'il va faire avec Fincher et tout. Non, appelle-moi David. Vraiment, c'est vraiment très très bon. Et il y a également quelques petites caméos hein, de personnages qui jouent leur propre rôle, bien entendu, hein, parce que ça se passe à Hollywood. Ça s'appelle Dirt, donc, et c'est diffusé tous les lundis sur Canal Jimmy à partir de 20h45. Lundi, eh bien, deux épisodes, le numéro 3 et le numéro 4, hein, cette saison. On comporte 13, Ovophagie et le numéro 4, l'esprit de famille. Allez, on termine avec quelques petits trucs. Pas de semaine à la télé là, mais par contre un spécial Van Damme avec trois films de Van Damme.
Ouais.
Et t'as vu la bande annonce?
Trois. Non, de quoi?
De JCVD.
JCVD.
Le film de Mabo Kalmeshri.
C'est pas une bande annonce, c'est en fait un court métrage. En fait un bout d'essai qui a été présenté.
Un teaser court métrage. Ouais.
Présenté au distributeur à Cannes et c'est un court métrage absolument sensationnel avec lui dedans. Donc Jean-Claude. Le plus grand, le plus beau, le plus fort des philosophes acteurs.
On mettra le lien sur le site de l'émission.
Il y a 4 films cette semaine de Van Damme. Ça commence ce soir.
Alors, il faut deviner.
Sur 6 filles, à 20h45, il a la possibilité, facile, hein, de voyager dans le temps.
Time cop.
Ouais, facile et tout, quoi. Demain, sur W9, à 20h45, il va combattre un tyran mégalomane qui veut transformer le monde.
Street Fighter.
D'accord, ok.
Alors, plus difficile. Lundi à 20h45 sur RTL9, il va infiltrer une prison pour trouver ce qui s'y trame.
Ah oui, c'est...
Oh, punaise.
C'est merde. C'est le vieux ou le nouveau? Parce que le nouveau,
le
c'est
vieux, le vieux, ah, le vieux.
Le vieux, c'était
en 1990.
Oui, oui, à Ouista Planana au parloir là.
Exactement,
je sais plus.
Coup pour coup, voilà. Terran Sarafian. Et je vous avais repéré Double Impact qui passe également deux fois cette semaine. Mais j'ai oublié d'écrire sur. j'ai oublié d'écrire.
J'aurais pu prévenir quand même.
La chaîne sur laquelle ça se passait. Sinon, sachez qu'il y a également sur Ciné Cinéma Culte une soirée Jodorowsky lundi avec. Bah ouais, carrément.
Voilà, sortez la bœuf.
Carrément
les champignons.
Le contenant du coffret vidéo qui a été mis en circulation il n'y a pas si longtemps que ça avec à 20h45 El Topo de 70. À 22h45 La Montagne Sacrée de 73. Ouais. Et le film qu'il a fait avant, 68, Fando Ellis, à 0h40. Donc, ce que vous avez sur le DVD, c'est un double DVD, me semble-t-il. Vous l'avez également lundi sur Cinéma Culte, à partir de 20h45, Jodorowsky. Et voilà.
Et c'est ainsi que se clôt le supplément week-end. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, nous avons parlé d'une manifestation pour Otaku qui aura lieu à Labège, le Toulouse Game Show tout à l'heure. Xavier qui a coupé le son de la ZIC, mais qui a remis le son. Des noms de mangaka massacrés, beaucoup de BD de la mangas japonaise et française, de la postface de Jean-Pierre Dionnet, de la tuerie comics manga, du chat chinois qui est amoureux de la preuve compromettante sur Xavier, de la biopix excellente, du full frontal prison break. Prison Break versus les Sopranos, la femme de Columbo qui c'était une note pour moi et des films avec JC, alors c'est pas Jésus-Christ, c'est Jean-Claude Van Damme.
Non d'aminé, ils ont marqué. Excusez-moi, on rembobine. Non d'aminé, ils
Dans Bernard Minet, ils ont manqué tout ça.
Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégrale de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives pour se rappeler, par exemple, du fameux Aurélien Incident. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web, vous ouvrez un navigateur internet, style Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, ce que vous voulez, et vous tapez supplément week-end, sans accent, sans tirer, supplémentweekend.tk, et vous serez en plein dedans. La suite des programmes sur Radio FMR avec votre cahier sportif de suite à 15h, Jazz Not Dead, qui n'est pas du jazz mais du reggae, 17h Big Bang, 18h Made in France, 19h Happier avec les petites olives, 20h Les Hétéro Expérience Electro, 21h30 9 Love, c'est YouTube Step, et à 23h le potager, c'est de la scène rock à Toulouse. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence et même site internet. Voilà, alors donc ciao, bye bye.
Ciao.
Ciao. Et retrouvez-nous tout à l'heure donc à Balma. Hein, la bêche, pardon. Oh punaise, je me suis planté tout à l'heure. Ah, je crois. Bon, allez, ciao. Plus.